Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu. Deuxième partie, dialogue 3 et 4.
Une masse épaisse d'ombre se dirige vers cette plage. La région où nous sommes sera bientôt envahie. Venez de ce côté. Sans cela, nous ne tarderions pas à être séparés.
Je n'ai point trouvé dans vos dernières paroles la précision qui caractérisait votre langage au commencement de notre entretien. Je trouve que vous avez exagéré les conséquences des principes qui se renfermaient dans l'esprit des lois.
J'ai évité à dessein dans cet ouvrage de faire de longues théories. Si vous le connaissiez autrement que par ce qui vous en a été rapporté, vous verriez que les développements particuliers que je vous donne ici découlent sans effort des principes que j'ai posés. Au surplus, je ne fais pas difficulté d'avouer que la connaissance que j'ai acquise des temps nouveaux n'est modifiée ou complétée quelques-unes de mes idées.
Comptez-vous sérieusement soutenir que le despotisme est incompatible avec l'état politique des peuples de l'Europe ?
Je n'ai pas dit tous les peuples, mais je vous citerai, si vous voulez, ceux chez qui le développement de la science politique a amené ce grand résultat.
Quels sont ces peuples ?
L'Angleterre, la France, la Belgique et une portion de l'Italie, la Prusse, la Suisse, la Confédération germanique, la Hollande, l'Autriche même. C'est-à-dire, comme vous le voyez, presque toute la partie de l'Europe sur laquelle s'étendait autrefois le monde romain.
Je connais un peu ce qui s'est passé en Europe depuis 1527 jusqu'au temps actuel, et je vous avoue que je suis fort curieux de vous entendre justifier votre proposition.
Eh bien, écoutez-moi, et je parviendrai peut-être à vous convaincre. Ce ne sont pas les hommes, ce sont les institutions qui assurent le règne de la liberté et des bonnes mœurs dans les États. De la perfection ou de l'imperfection des institutions dépend tout le bien, mais dépendra nécessairement aussi tout le mal qui peut résulter pour les hommes de leur réunion en société. Et quand je demande les meilleures institutions, vous comprenez bien que, suivant le mot si beau de Solon, j'entends les institutions les plus parfaites que les peuples puissent supporter. C'est vous dire que je ne conçois pas pour eux des conditions d'existence impossibles, et que par là je me sépare de ces déplorables réformateurs qui prétendent construire les sociétés sur de pures hypothèses rationnelles, sans tenir compte du climat, des habitudes, des mœurs et même des préjugés. À l'origine des nations, les institutions sont ce qu'elles peuvent. L'Antiquité nous a montré des civilisations merveilleuses, des États dans lesquels les conditions du gouvernement libre étaient admirablement comprises. Les peuples de l'ère chrétienne ont eu plus de difficultés à mettre leur constitution en harmonie avec le mouvement de la vie politique. Mais ils ont profité des enseignements de l'Antiquité, et avec des civilisations infiniment plus compliquées, ils sont cependant arrivés à des résultats plus parfaits. Une des causes premières de l'anarchie, comme du despotisme, a été l'ignorance théorique et pratique dans laquelle les États de l'Europe ont été pendant si longtemps sur les principes qui président à l'organisation des pouvoirs. Comment, lorsque le principe de la souveraineté résidait uniquement dans la personne du prince, le droit de la nation pouvait-il être affirmé? Comment, lorsque celui qui était chargé de faire exécuter les lois était en même temps le législateur? Sa puissance n'eût-elle pas été tyrannique? Comment les citoyens pouvaient-ils être garantis contre l'arbitraire lorsque, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif étant déjà confondus, le pouvoir judiciaire venait encore se réunir dans la même main? Je sais bien que certaines libertés, que certains droits publics qui s'introduisent tôt ou tard dans les mœurs politiques les moins avancées, ne laissaient pas que d'apporter des obstacles à l'exercice illimité de la royauté absolue. Que, d'un autre côté, la crainte de faire crier le peuple, l'esprit de douceur de certains rois, les portait à user avec modération des pouvoirs excessifs dont ils étaient investis. Mais il n'en est pas moins vrai que ces garanties si précaires étaient à la merci du monarque qui possédait en principe les biens, les droits et la personne des sujets. La division des pouvoirs a réalisé en Europe le problème des sociétés libres. Et si quelque chose peut adoucir pour moi l'anxiété des heures qui précèdent le jugement dernier, c'est la pensée que mon passage sur la terre n'a point été étranger à cette grande émancipation. Vous attenez, Machiavel, sur les limites du Moyen-Âge, et vous avez vu, avec la Renaissance des arts, s'ouvrir l'aurore des temps modernes. Mais la société au milieu de laquelle vous avez vécu était, permettez-moi de le dire, encore toute empreinte des errements de la barbarie. L'Europe était un tournoi. Les idées de guerre, de domination et de conquête remplissaient la tête des hommes d'État et des princes. La force était tout alors. Le droit, fort peu de choses, j'en conviens. Les royaumes étaient comme la proie des conquérants. À l'intérieur des États, les souverains luttaient contre les grands vassaux. Les grands vassaux écrasaient les cités. Au milieu de l'anarchie féodale qui mettait toute l'Europe en armes, les peuples foulés aux pieds s'étaient habitués à regarder les princes et les grands comme des divinités fatales auxquelles le genre humain était livré. Vous êtes venu dans ces temps pleins de tumultes, mais aussi pleins de grandeur. Vous avez vu des capitaines intrépides, des hommes de fer, des génies audacieux. Et ce monde, rempli de sombre beauté dans son désordre, vous est apparu comme il apparaîtrait à un artiste dont l'imagination serait plus frappée que le sens moral. C'est là ce qui, à mes yeux, explique le traité du prince. Et vous n'étiez pas si loin de la vérité que vous voulez bien le dire, lorsque tout à l'heure, par une feinte italienne, il vous plaisait, pour me sonder, de l'attribuer à un caprice de diplomate. Mais, depuis vous, le monde a marché. Les peuples se regardent aujourd'hui comme les arbitres de leur destinée. Ils ont, en fait, comme en droit, détruit les privilèges, détruit l'aristocratie. Ils ont établi un principe qui serait bien nouveau pour vous, descendants du marquis Hugo. Ils ont établi le principe de l'égalité. Ils ne voient plus dans ceux qui les gouvernent que des mandataires. Ils ont réalisé le principe de l'égalité par des lois civiles que rien ne pourrait leur arracher. Ils tiennent à ces lois comme à leur sang, parce qu'elles ont coûté, en effet, bien du sang à leurs ancêtres. Je vous parlais des guerres tout à l'heure. Elles sévissent toujours, je le sais. Mais le premier progrès, c'est qu'elle ne donne plus aujourd'hui aux vainqueurs la propriété des États vaincus. Un droit que vous avez à peine connu, le droit international, régit aujourd'hui les rapports des nations entre elles, comme le droit civil régit les rapports des sujets dans chaque nation. Après avoir assuré leurs droits privés par des lois civiles, leurs droits publics par des traités, les peuples ont voulu se mettre en règle avec les princes, et ils ont assuré leurs droits politiques par des constitutions. Longtemps livrés à l'arbitraire par la confusion des pouvoirs qui permettait aux princes de faire des lois tyranniques pour les exercer tyranniquement, ils ont séparé les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, par des lignes constitutionnelles qui ne peuvent être franchies sans que l'alarme soit donnée à tout le corps politique. Par cette seule réforme, qui est un fait immense, le droit public intérieur a été créé, et les principes supérieurs qui le constituent se trouvent dégagés. La personne du prince cesse d'être confondue avec celle de l'État. La souveraineté apparaît comme ayant en partie sa source au sein même de la nation, qui fait la distribution des pouvoirs entre le prince et des corps politiques indépendants les uns des autres. Je ne veux point faire, devant l'illustre homme d'État qui m'entend, une théorie développée du régime qui s'appelle, en Angleterre et en France, le régime constitutionnel. Il est passé aujourd'hui dans les mœurs des principaux États de l'Europe. Non seulement parce qu'il est l'expression de la plus haute science politique, mais surtout parce qu'il est le seul mode pratique de gouvernement en présence des idées de la civilisation moderne. Dans tous les temps, sous le règne de la liberté comme sous celui de la tyrannie, on n'a pu gouverner que par des lois. C'est donc sur la manière dont les lois sont faites que sont fondées toutes les garanties des citoyens. Si c'est le prince qui est le législateur unique, il ne fera que des lois tyranniques. Heureux s'il ne bouleverse pas la constitution de l'État en quelques années. Mais, en tout cas, on est en plein absolutisme. Si c'est un Sénat, on a constitué l'oligarchie, régime odieux au peuple parce qu'il lui donne autant de tyrans que de maîtres. Si c'est le peuple, on court à l'anarchie, ce qui est une autre manière d'aboutir au despotisme. Si c'est une assemblée élue par le peuple, la première partie du problème se trouve déjà résolue, car c'est là la base même du gouvernement représentatif, aujourd'hui en vigueur dans toute la partie méridionale de l'Europe. Mais une assemblée de représentants du peuple qui posséderait à elle seule toute la souveraineté législative ne tarderait pas à abuser de sa puissance et à faire courir à l'État les plus grands périls. Le régime qui s'est définitivement constitué, heureuse transaction entre l'aristocratie, la démocratie et l'établissement monarchique, participe à la fois de ces trois formes de gouvernement, au moyen d'une pondération de pouvoir qui semble être le chef-d'œuvre de l'esprit humain. La personne du souverain reste sacrée, inviolable. Mais tout en conservant une masse d'attributions capitales qui, pour le bien de l'État, doivent demeurer en sa puissance. Son rôle essentiel n'est plus que d'être le procurateur de l'exécution des lois. N'ayant plus dans sa main la plénitude des pouvoirs, sa responsabilité s'efface et passe sur la tête des ministres qu'il associe à son gouvernement. La loi, dont il a la proposition exclusive ou concurrément avec un autre corps d'État, est préparé par un conseil composé d'hommes mûris dans l'expérience des affaires, soumise à une chambre haute, héréditaire ou viagère, qui examine si ces dispositions n'ont rien de contraire à la Constitution votée par un corps législatif émané du suffrage de la nation, appliqué par une magistrature indépendante. Si la loi est vicieuse, elle est rejetée ou amendée par le corps législatif. La Chambre haute s'oppose à son adoption si elle est contraire aux principes sur lesquels repose la Constitution. Le triomphe de ce système si profondément conçu, et dont le mécanisme, vous le comprenez, peut se combiner de mille manières, suivant le tempérament des peuples auxquels il s'applique, a été de concilier l'ordre avec la liberté, la stabilité avec le mouvement, de faire participer l'universalité des citoyens à la vie politique, en supprimant les agitations de la place publique. C'est le pays se gouvernant lui-même, par le déplacement alternatif des majorités qui influent dans les chambres sur la nomination des ministres dirigeants. Les rapports entre le prince et les sujets reposent, comme vous le voyez, sur un vaste système de garanties dont les bases inébranlables sont dans l'ordre civil. Nul ne peut être atteint dans sa propre personne ou dans ses biens par un acte de l'autorité administrative. La liberté individuelle est sous la protection des magistrats. En matière criminelle, les accusés sont jugés par leurs pairs. Au-dessus de toutes les juridictions, il y a une juridiction suprême chargée de casser les arrêts qui seraient rendus en violation des lois. Les citoyens eux-mêmes sont armés pour la défense de leurs droits, par l'institution de milices bourgeoises qui concourent à la police des cités. Le plus simple particulier peut, par voie de pétition, faire monter sa plainte jusqu'au pied des assemblées souveraines qui représentent la nation. Les communes sont administrées par des officiers publics nommés à l'élection. Chaque année, de grandes assemblées provinciales, également issues du suffrage, se réunissent pour exprimer les besoins et les vœux des populations qui les entourent. Telle est l'image, trop affaiblie au Machiavel, de quelques-unes des institutions qui fleurissent aujourd'hui dans les États modernes, et notamment dans ma belle patrie. Mais comme la publicité est de l'essence des pays libres, toutes ces institutions ne pourraient vivre longtemps si elles ne fonctionnaient au grand jour. Une puissance encore inconnue dans votre siècle, et qui ne faisait que naître de mon temps, est venue leur donner le dernier souffle de la vie. C'est la presse, longtemps proscrite, encore décriée par l'ignorance, mais à laquelle on pourrait appliquer le beau mot qu'a dit Adam Smith en parlant du crédit, c'est une voie publique. C'est par cette voie, en effet, que se manifeste tout le mouvement des idées chez les peuples modernes. La presse exerce dans l'État comme des fonctions de police. Elle exprime les besoins, traduit les plaintes, dénonce les abus, les actes arbitraires. Elle contraint à la moralité tous les dépositaires du pouvoir. Il lui suffit pour cela de les mettre en face de l'opinion. Dans des sociétés ainsi réglées, au Machiavel, quelle part pourriez-vous faire à l'ambition des princes et aux entreprises de la tyrannie? Je n'ignore point par quelles convulsions douloureuses ces progrès ont triomphé. En France, la liberté noyée dans le sang pendant la période révolutionnaire ne s'est relevée qu'avec la Restauration. Là, de nouvelles commotions se préparaient encore. Mais déjà, tous les principes, toutes les institutions dont je vous ai parlé, étaient passés dans les mœurs de la France et des peuples qui gravitent dans la sphère de sa civilisation. J'en ai fini, Machiavel. Les États, comme les souverains, ne se gouvernent plus aujourd'hui que par les règles de la justice. Le ministre moderne qui s'inspirerait de vos leçons ne resterait pas un an au pouvoir. Le monarque qui mettrait en pratique les maximes du traité du prince soulèverait contre lui la réprobation de ses sujets. Il serait mis au banc de l'Europe.
Vous croyez ?
Me pardonnerez-vous ma franchise ?
Pourquoi non ?
Dois-je penser que vos idées se sont quelque peu modifiées ?
Je me propose de démolir pièce à pièce toutes les belles choses que vous venez de dire, et de vous démontrer que ce sont mes doctrines seules qui l'emportent même aujourd'hui. Malgré les nouvelles idées, malgré les nouvelles mœurs, malgré vos prétendus principes de droit public, malgré toutes les institutions dont vous venez de me parler. Mais permettez-moi auparavant de vous adresser une question. Où en êtes-vous resté de l'histoire contemporaine ?
Les notions que j'ai acquises sur les divers états de l'Europe vont jusqu'au dernier jour de l'année 1847. Les hasards de ma marche errante à travers ces espaces infinis et la multitude confuse des âmes qui les remplissent, ne m'en ont fait rencontrer aucune qui ait pu me renseigner au-delà de l'époque que je viens de vous dire. Depuis que je suis descendu dans le séjour des ténèbres, j'ai passé un demi-siècle environ parmi les peuples de l'Ancien Monde, et ce n'est guère que depuis un quart de siècle que j'ai rencontré les légions des peuples modernes. Encore faut-il dire que la plupart arrivaient des coins les plus reculés de l'univers. Je ne sais pas même au juste à quelle année du monde nous en sommes.
Et si les derniers sont donc les premiers, ô Montesquieu. L'homme d'État du Moyen-Âge, le politique des temps barbares, se trouve en savoir plus que le philosophe du XVIIIe siècle sur l'histoire des temps modernes. Les peuples sont en l'an de grâce 1864.
Veuillez donc me faire savoir, Machiavel, je vous en prie instamment, ce qui s'est passé en Europe depuis l'année 1847.
Non pas, si vous le permettez, avant que je me sois donné le plaisir de porter la déroute au sein de vos théories.
Comme il vous plaira. Mais croyez bien que je ne conçois nulle inquiétude à cet égard. Il faut des siècles pour changer les principes et la forme des gouvernements sous lesquels les peuples ont pris l'habitude de vivre. Nul enseignement politique nouveau ne saurait résulter des 15 années qui viennent de s'écouler. Et dans tous les cas, s'il en était ainsi, ce ne seraient pas les doctrines de Machiavel qui jamais auraient triomphé.
Vous le pensez ainsi, mais écoutez-moi donc à votre tour. En écoutant vos théories sur la division des pouvoirs et sur les bienfaits que lui doivent les peuples de l'Europe, je ne pouvais m'empêcher d'admirer, Montesquieu, à quel point l'illusion des systèmes peut s'emparer des plus grands esprits. Séduit par les institutions de l'Angleterre, vous avez cru pouvoir faire du régime constitutionnel la panacée universelle des États. Mais vous avez compté sans le mouvement irrésistible qui arrache aujourd'hui les sociétés à leurs traditions de la veille. Il ne se passera pas 2 siècles avant que cette forme de gouvernement que vous admirez ne soit plus en Europe qu'un souvenir historique, quelque chose de suranné et de caduc, comme la règle des 3 unités d'Aristote. Permettez-moi d'abord d'examiner en elle-même votre mécanique politique. Vous balancez les 3 pouvoirs et vous les confinez chacun dans leur département. Celui-ci fera les lois, 7 autres les appliquera et 1/3 les exécutera. Le prince régnera, les ministres gouverneront. Merveilleuse chose que cette bascule constitutionnelle. Vous avez tout prévu, tout réglé, sauf le mouvement. Le triomphe d'un tel système, ce ne serait pas l'action. Ce serait l'immobilité si le mécanisme fonctionnait avec précision. Mais en réalité, les choses ne se passeront pas ainsi. À la première occasion, le mouvement se produira par la rupture d'un des ressorts que vous avez si soigneusement forgés. Croyez-vous que les pouvoirs resteront longtemps dans les limites constitutionnelles que vous leur avez assignées et qu'ils ne parviendront pas à les franchir? Quelle est l'assemblée législative indépendante qui n'aspirera pas à la souveraineté? Quelle est la magistrature qui ne fléchira pas au gré de l'opinion? Quel est le prince, surtout, souverain d'un royaume ou chef d'une république, qui acceptera sans réserve le rôle passif auquel vous l'aurez condamné? Et qui, dans le secret de sa pensée, ne méditera pas le renversement des pouvoirs rivaux qui gênent son action. En réalité, vous aurez mis aux prises toutes les forces contraires, suscité toutes les entreprises, donné des armes à tous les partis. Vous aurez livré le pouvoir à l'assaut de toutes les ambitions et fait de l'État une arène où se déchaîneront les factions. Dans peu de temps, ce sera le désordre partout. D'intarissables rhéteurs transformant en joutes oratoires des assemblées délibérantes. D'audacieux journalistes, d'effrénés pamphlétaires, attaqueront tous les jours la personne du souverain, discréditeront le gouvernement, les ministres, les hommes en place.
Je connais depuis longtemps ces reproches adressés au gouvernement libre. Ils n'ont pas de valeur à mes yeux. Les abus ne condamnent point les institutions. Je sais de nombreux États qui vivent en paix et depuis longtemps sous de telles lois. Je plains ceux qui ne peuvent y vivre.
Attendez! Dans vos calculs, vous n'avez compté qu'avec les minorités sociales. Il y a des populations gigantesques rivées au travail par la pauvreté, comme elles étaient autrefois par l'esclavage. Qu'importe, je vous le demande, à leur bonheur, toutes vos fictions parlementaires? Votre grand mouvement politique n'a abouti en définitive qu'au triomphe d'une minorité privilégiée par le hasard, comme l'ancienne noblesse l'était par la naissance. Qu'importe au prolétaire courbé sur son labeur, accablé sous le poids de sa destinée, que quelques orateurs aient le droit de parler, que quelques journalistes aient le droit d'écrire. Vous avez créé des droits qui resteront éternellement pour la masse du peuple à l'état de pure faculté, puisqu'il ne saurait pas s'en servir. Ces droits, dont la loi lui reconnaît la jouissance idéale et dont la nécessité lui refuse l'exercice réel, ne sont pour lui qu'une ironie amère de sa destinée. Je vous réponds qu'un jour il les prendra en haine et qu'il les détruira de sa main pour se confier au despotisme.
Quel mépris Machiavel a-t-il donc pour l'humanité? Et quelle idée se fait-il de la bassesse des peuples modernes? Dieu puissant, je ne croirais pas que tu les aies créés si vils. Machiavel, quoi qu'il en dise, ignore les principes et les conditions d'existence de la civilisation actuelle. le travail aujourd'hui est la loi commune, comme il est la loi divine. Et loin qu'il soit un signe de servitude parmi les hommes, il est le lien de leur association, l'instrument de leur égalité. Les droits politiques n'ont rien d'illusoire pour le peuple dans les États où la loi ne reconnaît point de privilèges et où toutes les carrières sont ouvertes à l'activité individuelle. Sans doute, et dans aucune société, il n'en saurait être autrement. L'inégalité des intelligences et des fortunes entraîne pour les individus d'inévitables inégalités dans l'exercice de leurs droits. Mais ne suffit-il pas que ces droits existent pour que le vœu d'une philosophie éclairée soit rempli, pour que l'émancipation des hommes soit assurée dans la mesure où elle peut l'être? Pour cela même que le hasard a fait naître dans les conditions les plus humbles, n'est-ce rien que de vivre dans le sentiment de leur indépendance et dans leur dignité de citoyens? Mais ce n'est là qu'un côté de la question, car si la grandeur morale des peuples est liée à la liberté, ils n'y sont pas rattachés moins étroitement par leurs intérêts matériels.
C'est ici que je vous attendais. L'école à laquelle vous appartenez a posé les principes dont elle ne paraît pas apercevoir les dernières conséquences. Vous croyez qu'ils conduisent au règne de la raison, mais je vais vous montrer qu'ils ramènent au règne de la force. Votre système politique, pris dans sa pureté originelle, consiste à donner une part d'action à peu près égale aux divers groupes de force dont les sociétés se composent, à faire concourir dans une juste proportion les activités sociales. Vous ne voulez pas que l'élément aristocratique prime l'élément démocratique. Cependant, le tempérament de vos institutions est de donner plus de force à l'aristocratie qu'au peuple, plus de force au prince qu'à l'aristocratie, proportionnant ainsi les pouvoirs de la capacité politique de ceux qui doivent les exercer.
Vous dites vrai.
Vous faites participer les différentes classes de la société aux fonctions publiques suivant le degré de leur aptitude et de leur lumière. Vous émancipez la bourgeoisie par le vote. Vous contenez le peuple par le sens. Les libertés populaires créent la puissance de l'opinion et l'aristocratie donne le prestige des grandes manières. Le trône jette sur la nation l'éclat du sang suprême. Vous gardez toutes les traditions, tous les grands souvenirs, le culte de toutes les grandes choses. À la surface, on voit une société monarchique, mais tout est démocratique au fond, car en réalité, il n'y a point de barrière entre les classes, et le travail est l'instrument de toutes les fortunes. N'est-ce pas à peu près cela ?
Oui, Machiavel. Et vous savez du moins comprendre les opinions que vous ne partagez pas.
Eh bien, toutes ces belles choses sont passées ou passeront comme un rêve, car vous avez un nouveau principe avec lequel toutes les institutions se décomposent avec une rapidité foudroyante.
Quel est donc ce principe ?
C'est celui de la souveraineté populaire. On trouvera, n'en doutez pas, la quadrature du cercle avant d'arriver à concilier l'équilibre des pouvoirs avec l'existence d'un pareil principe chez les nations où il est admis. Le peuple, par une conséquence absolument inévitable, s'emparera un jour ou l'autre de tous les pouvoirs dont on a reconnu que le principe était en lui. Sera-ce pour les garder ? Non, après quelques jours de folie, il les jettera par lassitude au premier soldat de fortune qui se trouvera sur son chemin. Dans votre pays, vous avez vu en 1793 comment les coupe-têtes français ont traité la monarchie représentative. Le peuple souverain s'est affirmé par le supplice de son roi, puis il a fait litière de tous ses droits. Il s'est donné à Robespierre, à Barras, à Bonaparte. Vous êtes un grand penseur, mais vous ne connaissez pas l'inépuisable lâcheté des peuples, je ne dis pas de ceux de mon temps, mais de ceux du vôtre. Rampant devant la force, sans pitié devant la faiblesse, implacable pour des fautes, indulgent pour des crimes, incapable de supporter les contrariétés d'un régime libre, et patient jusqu'au martyre pour toutes les violences du despotisme audacieux, brisant les trônes dans des moments de colère, et se donnant des maîtres à qui ils pardonnent des attentats pour le moindre desquels ils auraient décapité 20 rois constitutionnels. Cherchez donc la justice, cherchez le droit, la stabilité, l'ordre, le respect des formes, si compliquées de votre mécanisme parlementaire, avec des masses violentes, indisciplinées, insultes auxquelles vous avez dit « Vous êtes le droit, vous êtes les maîtres, vous êtes les arbitres de l'État. » Oh, Je sais bien que le prudent Montesquieu et le politique circonspect qui posait les principes et réservait les conséquences n'a pas écrit dans l'esprit des lois le dogme de la souveraineté populaire. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, les conséquences découlent d'elles-mêmes des principes que vous avez posés. L'affinité de vos doctrines avec celle du contrat social se fait assez sentir. Aussi, depuis le jour où les révolutionnaires français, jurant in verba magistri, ont écrit « Une constitution ne peut être que l'ouvrage libre d'une convention entre associés », le gouvernement monarchique et parlementaire a été condamné à mort dans votre patrie. Vainement, on a essayé de restaurer les principes. Vainement, votre roi Louis XVIII, en rentrant en France, a-t-il tenté de faire remonter les pouvoirs à leur source en promulguant les déclarations de 89 comme procédant de l'octroi royal? Cette pieuse fiction de la monarchie aristocratique était en contradiction trop flagrante avec le passé. Elle devait s'évanouir au bruit de la révolution de 1830, comme le gouvernement de 1830 à son tour.
Achevé.
Non, n'anticipons pas. Ce que vous savez, ainsi que moi, du passé, l'autorise dès à présent à dire que le principe de la souveraineté populaire est destructif de toute stabilité et qu'il consacre indéfiniment le droit des révolutions. Il met les sociétés en guerre ouverte contre tous les pouvoirs humains et même contre Dieu. Il est l'incarnation même de la force. Il fait du peuple une brute féroce qui s'endort quand elle est repue de sang et qu'on enchaîne. Et voici la marche invariable que suivent alors les sociétés dont le mouvement est réglé sur ce principe. La souveraineté populaire engendre la démagogie engendre l'anarchie, et l'anarchie ramène au despotisme. Le despotisme, pour vous, c'est la barbarie, eh bien, vous voyez que les peuples retournent à la barbarie par le chemin de la civilisation. Mais ce n'est pas tout, et je prétends qu'à d'autres points de vue encore, le despotisme est la seule forme de gouvernement et qui soit réellement appropriée à l'état social des peuples modernes. Vous m'avez dit que leurs intérêts matériels les rattachaient à la liberté. Ici, vous me faites trop beau jeu. Quels sont en général les États qui ont besoin de la liberté? Ce sont ceux qui vivent par de grands sentiments, par de grandes passions, par l'héroïsme, par la foi, même par l'honneur, ainsi que vous le disiez de votre temps en parlant de la monarchie française. Le stoïcisme peut faire un peuple libre. Le christianisme, dans de certaines conditions, pourrait avoir le même privilège. Je comprends les nécessités de la liberté à Athènes, à Rome, chez des nations que ne respiraient que par la gloire des armes et dont la guerre satisfaisait toutes les expansions, qui avaient besoin d'ailleurs de toutes les énergies du patriotisme, de tous les enthousiasmes civiques pour triompher de leurs ennemis. Les libertés publiques étaient le patrimoine naturel des États dans lesquels les fonctions serviles et industrielles étaient délaissées aux esclaves, où l'homme était inutile s'il n'était pas un citoyen. Je conçois encore la liberté à certaines époques de l'ère chrétienne, et notamment dans les petits États reliés entre eux par des systèmes de confédération analogues à ceux des républiques helléniques, comme en Italie et en Allemagne. Je retrouve là une partie des causes naturelles qui rendaient la liberté nécessaire. Elle eût été presque inoffensive dans des temps où le principe de l'autorité n'était pas mis en question, où la religion avait un empire absolu sur les esprits, où le peuple, placé sous le régime tutélaire des corporations, marchait docilement sous la main de ses pasteurs. Si son émancipation politique eût été entreprise alors, elle eût pu l'être sans danger, car elle se fût accomplie en conformité des principes sur lesquels repose l'existence de toutes les sociétés. Mais avec vos grands États, qui ne vivent plus que par l'industrie, avec vos populations sans Dieu et sans foi, dans des temps où les peuples ne se satisfont plus par la guerre et où leur activité violente se reporte nécessairement au-dedans, la liberté, avec les principes qui lui servent de fondement, ne peut être qu'une cause de dissolution et de ruine. J'ajoute qu'elle n'est pas plus nécessaire aux besoins moraux des individus qu'elle ne l'est aux États. De la lassitude des idées, du choc des révolutions, sont sorties des sociétés froides et désabusées, qui sont arrivés à l'indifférence en politique comme en religion, qui n'ont plus d'autres stimulants que les jouissances matérielles, qui ne vivent plus que par l'intérêt, qui n'ont d'autre culte que l'or, dont les mœurs mercantiles le disputent à celles des juifs qu'ils ont pris pour modèle. Croyez-vous que ce soit par amour de la liberté en elle-même que les classes inférieures essaient de monter à l'assaut du pouvoir? C'est par haine de ceux qui possèdent. Au fond, c'est pour leur arracher leur richesse, instrument des jouissances qu'ils envient. Ceux qui possèdent implorent de tous les côtés un bras énergique, un pouvoir fort, et ne lui demandent qu'une chose, c'est de protéger l'État contre des agitations auxquelles sa constitution débile ne pourrait résister, de leur donner à eux-mêmes la sécurité nécessaire pour qu'ils puissent jouir et faire leurs affaires. Mais quelle forme de gouvernement voulez-vous appliquer à des sociétés où la corruption s'est glissée partout, où la fortune ne s'acquiert que par les surprises de la fraude, où la morale n'a plus de garantie que dans les lois répressives, où le sentiment de la patrie lui-même s'est éteint dans je ne sais quel cosmopolitisme universel? Je ne vois de salut pour ces sociétés, véritables colosses aux pieds d'argile, que dans l'institution d'une centralisation à outrance, qui met toute la force publique à la disposition de ceux qui gouvernent. Dans une administration hiérarchique semblable à celle de l'Empire romain, qui règle mécaniquement tous les mouvements des individus, dans un vaste système de législation, qui reprennent en détail toutes les libertés qui ont été imprudemment données, dans un despotisme gigantesque, enfin, qui puisse frapper immédiatement et à toute heure tout ce qui résiste, tout ce qui se plaint. Le césarisme du bas-empire me paraît réaliser assez bien ce que je souhaite pour le bien-être des sociétés modernes. Grâce à ces vastes appareils qui fonctionnent déjà, m'a-t-on dit, en plus d'un pays de l'Europe, elles peuvent vivre en paix, comme en Chine, comme au Japon, comme dans l'Inde. Il ne faut pas qu'un vulgaire préjugé nous fasse mépriser des civilisations orientales, dont on apprend chaque jour à mieux apprécier des institutions. Le peuple chinois, par exemple, est très commerçant et très bien administré.